peut y avoir la période des questions va être à la fin. Donc, il nous reste une présentation. Le consentement, comment améliorer la qualité du processus? On va avoir Mme Sylvie Lacroix et Isabelle Cloutier qui vont venir faire la présentation. Donc, je vous présente Mme Cloutier, qui est gestionnaire du groupe de recherche en résonance magnétique cardiovasculaire à l'Institut de cardio de Montréal. Elle est responsable de la phase d'établissement des études cliniques. Elle voit au processus contractuel ainsi qu'à la préparation et à la révision des documents qui sont destinés au comité d'éthique de la recherche et aux agences régulatoires. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de projets, dont 5 ans dans l'industrie pharmaceutique. Elle a travaillé en recherche fondamentale, préclinique et clinique dans le cadre de projets nationaux et internationaux. Et elle détient une maîtrise et un doctorat en immunologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, ainsi qu'une formation postdoctorale du Centre hospitalier universitaire de Zurich en Suisse. Madame Lacroix coordonne les activités du comité d'éthique de la recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 2009. Elle possède une vaste expérience du système de santé québécois pour y avoir œuvré pendant plusieurs années. Au cours de sa carrière, elle s'est distinguée dans son rôle d'infirmière clinicienne, de coordonnatrice en soins et en recherche et de chef d'unité. Madame Lacroix détient un diplôme en travail social, un bac en sciences infirmières de l'Université de Montréal ainsi qu'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique.
Alors, ben, bonne fin de journée à tout le monde. Je comprends que vous êtes peut-être un peu fatigués en cette fin de journée-là, mais on va essayer d'être le plus dynamique possible. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque TC de nous avoir invités à partager sur nos vues sur l'amélioration du processus de consentement. On s'entend que ce n'est pas seulement le consentement, c'est tout le processus qui entoure le consentement. Nous sommes enthousiasmés de pouvoir donner cette présentation-là en tandem parce que ça allie en fait la représentation du CER et des équipes de recherche. Alors, c'est un contexte qui nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Nous commencerons notre présentation par une courte série de définitions pour en déterminer les assises théoriques. Ensuite, nous définirons les principaux enjeux actuels pour en arriver à proposer des pistes de solutions illustrées à travers d'exemples appliqués. Henry Mintzberg dit, il dit encore, j'imagine, on ne peut définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. David A. Garvin, pour sa part, affirme que la qualité est un concept extrêmement nébuleux, car facile à visualiser, mais exaspérant à définir. Nous ne saurions pas être en désaccord avec des propos comme ceux-là, ce sont des experts en administration. Cependant, nous sommes d'avis qu'un colloque comme celui-ci aide à définir des indicateurs de qualité pour l'appliquer à nos champs d'intervention. Cette diapositive décrit les anciennes notions de la qualité en les comparant à la définition plus stratégique actuelle de la qualité. Trois éléments retiennent notre attention. Un, elle est définie par le sujet, on remplacera par participant. Deux, elle fait appel à la qualité de l'offre plutôt qu'à la qualité du service. Et finalement, elle se mesure partout. Livrons-nous à un petit exercice pour quelques minutes. Quand nous pensons à la qualité, comment on se la représente à nous-mêmes? Quelle image nous vient en tête? Je suis certaine que toutes les images qui nous viennent en tête, c'est des images positives. Il n'y a personne, en fait, qui m'a jamais dit, « Ben moi, je ne veux pas de ça, la qualité. » En fait, c'est quelque chose qui nous interpelle, puis on est content de voir des processus de qualité. En résumé, la proposition de Brown peut servir de base à rendre tangible la qualité dans le processus pour nous, le processus d'amélioration de la qualité du consentement, mais lui, il parle du processus dans l'entreprise. La qualité, la question qui se pose, c'est quoi un processus? Si on accepte que le processus signifie d'aller d'avant, d'avancer, et qu'on en allie processus et qualité, c'est dire que nous voulons aller de l'avant dans le processus de qualité du consentement. Influencé par les enseignements de Maître Deschamps, nous nous proposons d'utiliser la roue de Deming en tant que modèle d'amélioration continue dans ce processus d'amélioration de consentement. J'ai bien compris le message, on ne peut pas dissocier Deming des valeurs humaines qu'il véhiculait dans ses agir et ses présentations, mais quand même, la roue de Deming est un moyen mnémotechnique permettant de repérer avec facilité les étapes à suivre pour améliorer la qualité dans une organisation, nous permettant ainsi de l'utiliser dans un contexte pour faire progresser la démarche de qualité. À chaque étape, en fait, la roue avance d'un quart de tour et cette avancée est l'action qui progresse. La CAI, qui est basée sur l'expérience acquise à faire progresser, empêche la roue d'aller vers le bas. Alors, on doit toujours s'interroger, on fait quelque chose, on vérifie, on réagit et on planifie. Mais la roue, en fait, commence par planifier, faire, vérifier, agir. Que le processus soit lourd ou non, le planifier, fier, vérifier, réagir est toujours applicable. La roue tourne simplement moins ou plus vite. Alors, à l'aide des assises théoriques que nous venons d'exposer, nous identifions des moyens ou des indicateurs pour définir le processus. Nous le savons, le consentement doit être libre, éclairé et continu, et selon l'énoncé de politique, les termes libre et volontaire sont interchangeables. La prochaine question qui nous vient en tête est qui est concerné par ce processus, par le processus d'amélioration, d'obtention ou de la qualité du consentement. Alors, rapidement, on se dit, il y a le participant qui est très concerné, il y a le CER, il y a les équipes de recherche. Dans un processus d'amélioration de la qualité du consentement, nous sommes d'avis que le spectre est beaucoup plus large. Chacun des acteurs à tous les niveaux doit se sentir concerné par le processus de qualité. Alors, on les nomme, les acteurs qu'on a identifiés. Il est bien entendu que la protection du participant doit être au cœur de nos préoccupations. Mais tous les acteurs doivent être conscientisés et offrir un appui à cette démarche de communauté. Par exemple, la direction générale doit être sensibilisée au processus de qualité, et s'il est sensibilisé, peut-être attribuera-t-il les ressources nécessaires à cet accomplissement. Un commanditaire qui est sensibilisé au processus de qualité acceptera peut-être d'alléger les clauses contractuelles de consentement. Ce sont des exemples, ce sont des questions, mais quand même, les organismes réglementaires tiendront compte de cette obligation de qualité, dans leurs écrits. Lorsque nous pensons au processus de consentement, nous pensons à un processus beaucoup plus large et non limité au formulaire d'information et de consentement. Cependant, nous pouvons certes pas exclure de notre analyse les éléments de fond à la base du formulaire d'information et de consentement, c'est-à-dire les rubriques, les éléments de forme et les éléments linguistiques. Pas plus que nous pourrions passer outre aux grands défis rencontrés dans la rédaction des formulaires de consentement. Par exemple, dans un processus de qualité, nous devons nous pencher sur la question de son positionnement. Considérant qu'il est souvent difficile de départir s'il s'agit d'un document d'information ou d'un contrat d'adhésion, j'emprunte un questionnement de Maître Giroux. Celui-ci se trouverait-il donc assis en deux chaises? Les conséquences du problème de positionnement, ne sont pas négligeables. Longueur, difficulté à comprendre, surplus d'informations qui peuvent faire perdre la véritable information. On a vu dans la présentation précédente comment peut-être pallier à ça en le présentant de façon plus facile ou plus accessible pour les personnes concernées. Selon Berg, la difficulté réside à définir quel est le niveau approprié d'information nécessaire pour que le consentement soit considéré valide. Une telle affirmation ne peut amener qu'à considérer les différentes réalités des équipes de recherche et des CR. On sait que les équipes de recherche font l'écriture des formulaires de consentement, ce qui exige du temps, puisqu'ils ont une période de réflexion, puis souvent aussi aux prises avec le langage. C'est-à-dire que le formulaire de consentement primaire est en anglais, il est vulgarisé ou adapté à l'organisation par l'équipe de recherche selon les exigences du CER. Il retourne à la compagnie pour être très traduit pour qu'ils comprennent les modifications. Puis il revient finalement, puis là, le CER demande des modifications. Et cette valse-là de traduction est éprouvante pour tout le monde. Puis le CER, pour sa part, est responsable de la révision du formulaire et de la reformulation des formulaires de consentement. Il doit voir à ce que toutes les rubriques soient incluses, que le langage utilisé est accessible pour les participants à la recherche et que les risques sont bien identifiés, ce qui aussi demande une très grande quantité de travail. C'est sûr que nous sommes d'avis que le travail en commun, avec une collaboration étroite avec les équipes de recherche, peut faciliter cet exercice et la rendre plus efficace. Les difficultés soulevées tracent peut-être un portrait un peu sombre, quoiqu'ils reflètent le questionnement habituel. Des pistes de solutions sont proposées et j'invite Isabelle à en discuter.
Bonjour à tous. Avant de continuer, je voudrais simplement spécifier que ni Sylvie ni moi n'avons de conflit d'intérêts à déclarer. ce que Sylvie a fait ressortir est que la préparation du formulaire d'information et de consentement repose vraiment sur un travail de collaboration entre les équipes de recherche et le CER. Ce que nous voulons maintenant mettre de l'avant est que les différents intervenants peuvent également contribuer à une vision plus large du processus de consentement. Il s'agit d'un processus actif et interactif qui commence, selon nous, bien avant la présentation d'un projet de recherche à un potentiel participant et se poursuit jusqu'à l'obtention des conclusions d'études. Quels sont les types d'informations que l'on peut retrouver? Excusez-moi. Effectivement, avant de présenter un projet de recherche, il est vraiment important de s'assurer que des potentiels participants aient facilement accès à des informations générales sur la recherche clinique. Parmi le type d'informations qu'on pourrait rendre accessible est, entre autres, une brève historique sur les études cliniques. Quel est le but de la recherche clinique qui est l'acquisition de nouvelles connaissances et ne vise pas en premier lieu un but thérapeutique? Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel que ça soit clair pour les gens qui sont approchés pour les études cliniques. Il est aussi possible de décrire les principaux types d'études cliniques et aussi d'y inclure un lexique avec les principaux termes. Moi, je ne suis pas certaine si on demandait à monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qui est un placebo ou qu'est-ce que veut dire randomisé, que quelqu'un pourrait nous répondre. Il est également extrêmement important de décrire la composition et les rôles des comités d'éthique de façon à ce que les participants sachent que la recherche est encadrée et que le respect de leurs droits est une priorité. L'ensemble de ces informations peuvent être vraiment utiles pour la prise de décision de la personne approchée pour une participation à une étude clinique. C'est allé trop vite. Maintenant, si on s'adresse plus précisément au formulaire de consentement lui-même, dans la plupart des institutions, il y a des clauses standards qui sont utilisées afin de présenter certains points de droit, comme par exemple la clause de confidentialité. Cette approche permet d'assurer l'uniformité de l'information fournie et favorise la sécurité du participant. Maintenant, ce qu'on veut proposer, c'est qu'une approche similaire pourrait être utilisée pour créer des descriptifs spécifiques à un domaine d'étude, comme par exemple la façon qui est utilisée pour décrire le déroulement d'un examen, exemple, une échographie ou un électrocardiogramme, ou encore la façon de présenter les effets secondaires liés à un type de procédure spécifique. Ceci est d'autant plus important lorsque, dans une même étude, plusieurs personnes contribuent à la rédaction des formulaires d'information, de consentement et de toutes les autres informations qui peuvent être fournies aux participants, comme par exemple brochures, pamphlets, cartes. L'avantage ici est de pouvoir tester la qualité de l'information dans plusieurs études. Ensuite, cette base représente un point de départ à partir duquel on peut faire évoluer cette partie du consentement. Un autre avantage non négligeable est celui de réduire la quantité de travail à court et moyen terme, aussi bien pour le CER que pour les équipes de recherche. Comme mentionné précédemment, le but principal d'une étude clinique est l'avancement des connaissances. De ce fait, le participant est en droit d'être informé des impacts de la recherche à laquelle il a participé. Il est important qu'il y ait un respect des engagements de l'étude envers le participant, puisque la clause de retour d'information figure, ou du moins devrait figurer, au formulaire de consentement. Dans la déclaration de Zinsky, il est spécifié qu'un rapport complet et précis doit être rendu accessible aux participants. Maintenant, tout en respectant cette exigence, il est important de considérer l'ajout d'une présentation plus vulgarisée et résumée des grandes conclusions de l'étude à un niveau compréhensif pour un maximum de participants et ne pas simplement se fier ou se reposer sur les publications scientifiques pour transmettre l'information aux participants. Le processus de consentement repose sur une réflexion continue, le participant conservant en tout temps le droit de se retirer du projet. Cette réflexion débute bien avant la signature de tout formulaire et se poursuit jusqu'à ce que la participation au projet soit terminée. Chacune des étapes du processus contribue à la qualité et il est important de questionner chacune d'elles. Maintenant, comment peut-on favoriser la qualité pour l'ensemble de ces étapes? Il est tout d'abord important de définir les objectifs concrets à atteindre pour chacun des étapes que nous voulons améliorer. Ensuite, quels seront les outils, les moyens qui pourront être utilisés ou développés pour rencontrer ces objectifs et qui sont les intervenants concernés? Donc, qui va pouvoir m'aider, qui va pouvoir contribuer à cette étape? Il faut ensuite définir des paramètres d'évaluation pour chacun des objectifs afin de déterminer si les actions qui sont prises ont effectivement apporté une plus-value. Ici, je peux proposer certaines approches. L'évaluation peut se faire à l'aide, par exemple, d'un questionnaire qui serait proposé à une partie des participants ou encore à la clientèle d'une institution afin de recueillir leur opinion. Ceci peut être couplé. Par exemple, si on veut modifier une partie spécifique d'un formulaire de consentement, nous pourrions proposer 2 ou 3 modèles qui nous semblent intéressants pour rendre cette section du formulaire plus claire, les proposer aux participants et recueillir leur impression. Laquelle de ces propositions est la plus claire pour eux? Ou encore, nous pouvons utiliser un modèle comparatif, soit proposer le modèle qui existe déjà et le nouveau modèle qui est testé et voir est-ce que les modifications que nous proposons ont réellement apporté une plus-value à cette section du questionnaire. Un processus bien adapté n'en serait que plus efficace pour jouer son rôle auprès des participants. Ici, je vous présente des paramètres démographiques qui ont été recueillis sur des répondants à un sondage maison qui a été effectué sur un groupe de participants provenant de 23 études cliniques en cardiologie. Comme nous pouvons le voir en réunissant les données de ces deux graphiques, et que la grande majorité des participants ont plus de 50 ans et une éducation de niveau secondaire et plus, ce qui représente un profil typique de participants aux études en cardiologie. Nous avons été à même de constater que même dans un profil de population de participants standard, donc ce qu'on rencontre le plus habituellement, il ne faut vraiment pas hésiter à se questionner sur l'approche utilisée et oser aller voir plus loin. La combinaison de différents médias peut être considérée pour améliorer la compréhension et l'intégration de l'information. comme par exemple dans certains contextes, comme par exemple si le recrutement doit se faire dans un endroit qui ne favorise pas la concentration. On a beau essayer d'isoler la personne pour lui présenter le consentement et l'étude, ce n'est pas toujours possible. Donc, dans un environnement bruyant, on pourrait imaginer que le fait de proposer une vidéo avec des écouteurs permettrait vraiment à la personne d'entrer dans sa bulle, d'écouter la vidéo avant de lire la version papier. Il y a aussi, dans le cas, comme on l'a vu précédemment, pour les personnes qui ont de la difficulté à lire. Cette combinaison d'approches pourrait permettre de fournir une information plus complète et surtout de donner une option additionnelle aux participants dans son processus de compréhension des informations qu'on lui fournit. Et cela va fortement rejoindre les quatre présentations précédentes. J'aimerais vous présenter ici un exemple où la remise en question de l'approche utilisée lors du recrutement et l'intégration d'un autre média d'information ont permis d'améliorer la qualité du processus. OK. Non. Dans l'approche initiale, ici, il s'agit d'une étude qui a été effectuée en résonance magnétique. Et dans le cadre de cette étude, on devait expliquer aux participants potentiels une série de manœuvres respiratoires qui devaient être exécutées pour cette étude. Dans l'approche initiale, les outils dont nous disposions étaient bien entendu le formulaire de consentement dans lequel nous avions décrit le plus clairement possible la procédure à suivre. Nous présentions également un métronome aux personnes de façon à ce qu'ils puissent réaliser quel allait être le rythme qui devait être suivi pour faire ces exercices respiratoires. À ceci, nous avions ajouté une brochure explicative dans laquelle les manœuvres respiratoires étaient à nouveau expliquées, mais cette fois-ci complémentées avec certaines images. Les questions, les hésitations que nous avons rencontrées avec les premiers participants nous ont amené à développer un nouvel outil. Nous avons en fait préparé une vidéo qui montrait un participant fictif qui exécutait les manœuvres respiratoires selon les explications enregistrées données par l'infirmière de recherche. Nous avons par la suite eu beaucoup de commentaires positifs de la part des participants. Nous avons constaté une bien meilleure compréhension de la procédure à suivre et moins d'appréhension également de leur part. D'autres propositions que nous font amener ici sur la table, comme ça a été mentionné précédemment, une des limitations que les formulaires de consentement est souvent leur longueur, leur lourdeur. Donc, il serait peut-être possible d'envisager, pour alléger le formulaire de consentement, de mettre en annexe certaines clauses relevant de droit, comme par exemple la clause de confidentialité, qui pourrait être remplacée dans le formulaire par la clause de confidentialité a été validée par le CER et est conforme. Bien entendu, la clause complète doit en tout temps être accessible aux participants. Une autre approche qui vient tout juste d'être mentionnée, en fait, c'est le fait d'utiliser une approche plus visuelle pour expliquer certaines portions du consentement, en particulier la procédure. Je vous présente ici un bon exemple qui nous a été gracieusement fourni par le docteur Marc Jolicard, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie. Cet organigramme imagé avait été créé pour une étude complexe en thérapie cellulaire. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est le premier de trois panneaux du genre. Grâce à cette approche, il est plus facile de visualiser rapidement les examens et procédures qui vont être réalisés à chacune des visites. Il est ainsi plus facile pour le participant potentiel de comprendre ce qu'une éventuelle participation impliquerait. Essayez d'imaginer à quoi devrait ressembler le texte qui doit expliquer une procédure de ce type. Assez infernal. Donc, en résumé, la qualité du cheminement dans le processus de consentement dépend de plusieurs facteurs. Mais je pense qu'un facteur clé, plusieurs personnes l'ont fait ressortir, c'est la capacité de se poser des questions, mais surtout de se poser les bonnes questions. À qui la recherche s'adresse-t-elle? Et en fonction de cette population, quels seront les besoins? Les informations fournies sont-elles claires pour le participant? Est-ce que les informations sont suffisantes ou au contraire excessives, avec le risque de diluer l'essentiel et de perdre complètement le message central? Est-ce que l'approche utilisée pour présenter l'information est bien adaptée à la population des participants ciblés? dans tous les aspects du cheminement, il ne faut jamais perdre de vue que les participants sont au cœur de l'amélioration de la qualité du processus de consentement. Là, ce que je viens de m'apercevoir, c'est qu'on a sauté, j'ai sauté une diapo. Comme on va certainement avoir suffisamment de temps, je vais essayer de retrouver. C'était sur les nouveaux défis. Je veux juste les mentionner. C'est sûr que dans certains cas, je pense que les gens sont déjà conscients de ça. Mais en cardiologie, une des préoccupations, c'est que oui, il y a une augmentation de la proportion des participants plus âgés, mais on discute de plus en plus d'études cliniques qui vont axer sur des gens de 80 ans et plus. Et je pense qu'un type de population comme ça amène tout un nouveau niveau de discussion dans tout ce qu'on appelle communication. Disons que le niveau de défi des communications vont vraiment devoir être adressé pour ce type de population. Comme mentionné par plusieurs autres, l'augmentation de la diversité culturelle, le développement de protocoles cliniques très complexes, entre autres en génétique et en thérapie cellulaire. Nous, on le voit d'année en année, le type d'études, et ça devient vraiment un exploit d'expliquer en mots simples toutes les étapes aux potentiels participants. Et un autre défi qui pointe à nos portes et qui s'en vient vraiment rapidement, c'est le nombre augmentant de participants qui vont être plus confortables avec un média électronique qu'un média papier. Et ça aussi, je pense que c'est une question qu'on va devoir peut-être remettre en question certaines des pratiques et ouvrir la porte à des alternatives. Voilà. Donc, juste pour venir à ma dernière la diapo avant que je repasse la parole à Sylvie, en fait. Comme je disais, dans tous les aspects du cheminement, il faut garder en vue que les participants sont au cœur de l'amélioration de la qualité du processus de consentement et qu'ils peuvent y jouer un rôle actif. Et je repasse la parole à Sylvie qui va poursuivre sur ce sujet.
Bien, en fait, quand Isabelle a parlé que l'évaluation du formulaire et du processus de consentement par les participants pourrait être un moyen, enfin, d'évaluer la qualité de ce processus-là. Pour préparer la présentation, on a lu quelques articles, en fait, puis ces trois articles-là, en fait, ce qui est intéressant, qui était très intéressant et traite de sujets complètement différents, avec des méthodologies qui sont complètement différentes, ça n'a rien à voir là. Mais ce que... Pardon, mon Dieu, excusez. Avec des méthodologies, mais leurs conclusions sont similaires. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait. La première étude conclut que le formulaire de consentement ne rencontre pas les standards valides pour encourager la prise de décision efficace. La deuxième disait que la majorité des formulaires de consentement des biobanques en Allemagne, la première étude venait du Canada, la deuxième vient de l'Allemagne, devraient être améliorés et harmonisés pour mieux supporter un choix balancé et informé des donneurs potentiels et favoriser l'arrimage des biobanques. Puis la troisième étude, les conclusions indiquaient que les écarts étaient corrigeables dans le processus de consentement des projets de recherche médicale en Éthiopie. Alors, on a trois projets de recherche. Les conclusions sont similaires. En fait, le point qu'on veut faire ressortir, c'est que la qualité du processus de consentement représente un défi vécu à travers le monde et que tous travaillent selon leurs moyens pour l'améliorer. À l'Institut de cardiologie, soucieux d'avoir l'opinion des participants des projets de recherche sur leur satisfaction concernant leur projet, Isabelle y a fait référence, on a conduit un petit sondage maison. Ce qu'on a vu, c'est que 96% des patients interrogés se disent très à extrêmement satisfaits de leur participation à un projet de recherche. Même s'il ne s'agit pas d'une étude qui utilisait des instruments validés, c'est rassurant, je pense, de savoir que les participants sont en général satisfaits de leur participation à des projets de recherche. On remarque que 76 % des participants sont des hommes, tandis que 24 % sont des femmes. Ces pourcentages-là semblent représentatifs de la réalité de distribution des genres de ceux qui participent à des projets de recherche à l'ICM. Mais si on devait refaire un sondage comme celui-là, compte tenu que de plus en plus, si ça s'applique, les commanditaires vont demander qu'il y ait un nombre égal d'hommes et de femmes qui participent aux projets de recherche, est-ce qu'on devrait penser à interroger le même nombre d'hommes et de femmes? C'est des questions qu'on se pose. Quelle sera la décision, je ne sais pas, mais il faut au moins le soulever. L'autre question, une autre question qui a été demandée, puis je vous ferai pas tout le questionnaire, mais en s'intéressant à la qualité du processus de consentement, 97 % des personnes interrogées se disaient de très à excessivement satisfaits de l'information qui a été fournie pour prendre la décision de participer à un projet de recherche. Et 97,2 avaient l'impression qu'un refus de leur part ne nuirait pas à la qualité des soins auxquels ils sont en droit de recevoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 8,3 % des participants ne se sentiraient pas à l'aise de se retirer d'un projet de recherche. Pourquoi ces participants-là, ils ne se sentiraient pas à l'aise? Puis on revient aux enseignements de Maître Deschamps ce matin. Pourquoi? Comment aller chercher cette information? À quel niveau intervenir? Comment réagir à ça? Si on revient à la roue de Deming, on a planifié, on a fait. Maintenant, il faut vérifier et réagir à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour réagir à un tel résultat? Je sais bien que 8 % c'est pas énorme, mais en même temps, il faut s'en occuper. Alors, il faut le faire, je pense qu'une des suggestions, ce serait de faire connaître ce résultat, OK? Parce que ça impacte directement sur le consentement. En discuter avec ceux qui sont intéressés par la recherche, peut-être qu'on pourrait penser à éviter toute forme de marchandage ou de gradation dans le refus de participer au projet de recherche. Vous savez, des fois, les formulaires de consentement vont dire « je veux plus participer, mais je vais quand même continuer les visites de suivi ou je vais quand même faire ça ». Peut-être que ce serait un moyen d'éviter ça, je sais pas, mais on pourrait questionner ça. Peut-être aussi qu'on devrait re-questionner les patients pour avoir une opinion plus ferme de pourquoi ils ne s'en sentent pas aussi libres qu'on le voudrait de refuser de participer ou d'arrêter. C'est pas de refuser de participer parce qu'ils se sentent bien de le faire, mais c'est d'arrêter leur participation en cours de projet. Okay. Être à l'écoute. Alors, on a vu dans un premier temps que les gens participent à des projets de recherche, puis généralement, ils sont assez satisfaits. En tout cas, on est assuré de ça. On est un petit peu réassuré de ça. Mais Isabelle a mentionné que des interventions pouvaient être faites en amont pour améliorer la qualité du processus de consentement. Par exemple, de donner de l'information générale sur la recherche. Les questions qui apparaissent sur cette diapositive proviennent de patients à qui on a demandé de consentir à ce que l'on communique avec eux si des projets de recherche étaient susceptibles de les intéresser. Ces informations-là, ces questionnements, nous permettent de mettre en lumière qu'il y a beaucoup d'informations qui ne leur sont pas disponibles. Parce que, écoutez, est-ce que je vais être traité comme un rat de laboratoire? C'est pas le fun de penser ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Les gens sont toujours libres d'accepter, de refuser de participer ou pas. Mais je pense qu'il faut au moins leur donner l'information qui va leur permettre de prendre une décision éclairée. Alors, pour parler à ça, on revient toujours planifier, faire, vérifier, réagir. On a vérifié la réaction maintenant. Parmi les actions qui pourraient être entreprises, on pourrait suggérer, nommément, la formation du personnel qui demande le consentement pour qu'il soit en mesure de répondre aux questions de cette nature. On s'entend, hein? C'est juste de voir si on peut leur communiquer avec eux si jamais il y avait un projet qui pourrait les intéresser. on pourrait rendre le numéro d'une personne ressource disponible en tout temps pour qu'il puisse, on pourrait faire un signet informatique en respectant les règles de communication écrite qu'on a appris aujourd'hui. Alors, il y a toutes sortes de mesures qu'on pourrait prendre pour éviter ce genre, que les gens aient à se sentir comme ça, en fait. Voici le dernier indicateur que je vais vous présenter aujourd'hui. On a aussi fait une enquête terrain chez les chercheurs, puis à l'ICM, 55% des chercheurs, mesurés sur une échelle de tout à fait d'accord à tout à fait en désaccord, sont d'avis que les commentaires émis par le CR à propos des formulaires de consentement sont pertinents, et 61,3% croient que les formulaires d'information et de consentement aident à une meilleure compréhension du participant. Inspiré du langage d'agrément Canada, vous connaissez ça, l'agrément Canada avec les drapeaux rouge, vert, ce qui est correct. Je pense qu'on parle d'un drapeau qui pourrait être pas mal rouge. Je pense qu'il faut intervenir. On a l'information. Il faut intervenir. On peut pas juste la taire. Quelles pourraient être des actions entreprises pour améliorer cette perception? Améliorer ou altérer ou... Alors, les actions entreprises, parmi les actions entreprises, on a réinitié, parce que c'est un programme qui existait il y a une dizaine d'années à l'Institut, puis là, on l'a remis en place, la surveillance éthique continue des projets de recherche. Alors, Maître Deschamps, on vous a écouté et on a mis le processus en branle. Alors, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va dans les équipes de recherche pour tenter d'ouvrir le dialogue avec eux, d'identifier les éléments susceptibles d'améliorer le processus du consentement. En ouvrant ce dialogue-là, on trouve ensemble des moyens qui pourraient être disponibles. Puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on observe l'obtention d'un formulaire de consentement. Cette observation-là, ça nous permet de discuter de comment on pourrait l'améliorer. On a aussi travaillé au remodulage du formulaire de consentement type afin d'établir des balises très structurées et faciliter jusqu'à certains points l'écriture du consentement, tout en reconnaissant les limites qu'on a déjà mentionnées. Un programme de formation continue pour les membres des équipes de recherche et pour les membres du CER permet de réfléchir sur nos pratiques et de les améliorer en cours de route. Un programme d'accompagnement pour les nouveaux employés est essentiel à la compréhension de l'amélioration de la qualité du processus de consentement. Et finalement, ce qu'on essaie autant que possible de faire, c'est de faire un journal informatif à l'intention de ceux qui sont intéressés par la recherche. C'est-à-dire que deux, trois fois par année, on publie quelque chose. Puis ça nous permet de communiquer, d'amener des éléments qui sont problématiques, puis des choses qui ont bien fonctionné. Alors, par exemple, on pourrait présenter par écrit, bien sûr, le vidéo qui a été fait pour augmenter la compréhension des techniques respiratoires utilisées. Le fait de communiquer entre nous, puis c'est un journal qui se veut interactif, alors ça nous donne l'information à tous ceux qui sont impliqués par la recherche de comment on peut améliorer nos processus dans une limite de temps. En conclusion, on ne peut peut-être pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit, mais peut-être pourrons-nous lui imputer quelques indicateurs. Prévoir, faire, vérifier, agir sont un message, je pense, qu'il faut garder. Saisir les opportunités. Quand une opportunité s'adresse à nous, pas saisir dans le sens d'être opportuniste, mais quand une opportunité sort pour améliorer les procédures en cours, on la prend, en fait. Se questionner, être ouvert, et surtout être très humble, parce que ça demande une bonne dose d'humilité d'aller demander aux gens que pensez-vous et répondre à ces questions-là de notre travail. Alors, faut être assez humble pour être le faire, puis il faut être assez humble pour reconnaître qu'il y a peut-être des choses à améliorer, mais qu'on va mettre les mesures en place pour l'améliorer. Finalement, se questionner et favoriser la collaboration. Alors, nous le savons, nous y croyons, le participant doit être au cœur de nos interventions parce que participer à des projets de recherche est avant tout un acte de générosité témoignant d'un grand altruisme et c'est pourquoi nous devons offrir des processus de qualité et particulièrement en ce qui a trait au consentement. Merci.